Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Apologie de Socrate Criton réunit deux dialogues de Platon consacrés aux derniers jours de Socrate, dans le contexte de sa condamnation à mort par Athènes en 399 avant notre ère. Le premier texte présente la défense de Socrate devant ses juges face aux accusations de corruption de la jeunesse et de manque de respect envers les dieux de la cité. Le second se déroule dans sa prison lorsque Criton lui propose une fuite organisée avant son exécution. Ses œuvres ne sont ni des contes rendus judiciaires neutres, ni de simples récits biographiques. Platon y construit une figure philosophique dont les paroles et les choix mettent à l'épreuve les idées de vérité, de justice, de responsabilité et de citoyenneté. La brièveté des dialogues ne réduit pas leur portée, chaque échange examine les raisons qui devraient guider une décision plutôt que la peur, la réputation ou le calcul de l'intérêt immédiat. Le volume constitue ainsi une entrée majeure dans la méthode socratique et dans les questions politiques durables sur le rapport entre conscience individuelle et loi. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la défense philosophique comme refus de paraître savant dans Apologie de Socrate. Socrate ne cherche pas à produire une plaidoirie destinée à émouvoir ou à flatter le tribunal. Il oppose à la rhétorique persuasive une exigence de véracité dire ce qui est juste, même si cette manière de parler ne garantit pas le succès. Son point de départ est la réputation de sagesse qui lui est attribuée après la parole de Delphes. Il explique avoir interrogé des responsables politiques, des poètes et des artisans afin de comprendre cette réputation. Cette enquête lui révèle une différence décisive entre posséder un savoir limité dans un domaine et croire détenir une sagesse générale. Sa sagesse consiste donc moins en un ensemble de doctrines qu'en la conscience de ses propres limites. Cette position éclaire sa mission publique, questionner les certitudes établies pour exposer les illusions de savoir. Elle explique aussi les hostilités suscitées par son activité. Le dialogue montre que la philosophie peut avoir un coût civique lorsqu'elle contrarie le prestige et les intérêts. Platon fait ainsi de Socrate un modèle de cohérence intellectuelle, non un maître qui délivre des réponses définitives. L'enjeu est d'apprendre à distinguer examen rationnel, compétences réelles et prétention au savoir. Deuxièmement, une vie examinée vaut davantage que la sécurité ou la réputation. Face au juge, Socrate soutient que le soin de l'âme doit primer sur la recherche de richesse, de réputation et de pouvoir. Cette hiérarchie ne relève pas du mépris des nécessités ordinaires. Elle affirme que les biens extérieurs ne peuvent rendre juste une personne qui néglige son jugement moral. Sa pratique du dialogue devient dès lors un service rendu à la cité, il pousse ses concitoyens à interroger la valeur de leur but et la qualité de leur conduite. Cette conception explique son refus de cesser de philosopher en échange de la vie sauve. Accepter une telle condition reviendrait à abandonner ce qui donne un sens à son existence. Le texte ne propose pourtant pas une glorification abstraite du sacrifice. Il relie la liberté de parole à une discipline exigeante reconnaître son ignorance, demander des raisons et préférer une objection solide à une approbation facile. La condamnation de Socrate révèle une tension durable entre la décision collective et la critique individuelle. Une majorité peut légalement trancher sans résoudre la question du juste. Pour le lecteur, le dialogue fournit donc moins une leçon de bravoure qu'un critère d'évaluation. Une décision importante doit être jugée selon ses raisons et ses effets sur le caractère, non selon le seul risque encouru ou le regard du public. Troisièmement, dans Criton, ne pas répondre à une injustice par une autre. Criton présente une situation concrète et urgente. Socrate pourrait quitter la prison grâce à ses amis, éviter la mort et retrouver ses proches. Criton invoque la réputation de ceux qui ne tenteraient pas de le sauver, le devoir envers les enfants de Socrate et la facilité pratique de la fuite. Socrate ne nie pas la gravité de ses motifs, mais il exige de les soumettre à un principe plus ferme. Il faut écouter non toutes les opinions, mais les jugements compétents en matière de justice, de même que la santé requiert attention au savoir médical plutôt qu'aux rumeurs. Le principe central est que commettre une injustice demeure mauvais, y compris en réponse à une injustice subie. La condamnation peut être injuste sans que l'évasion devienne juste. Cette distinction est fondamentale car elle empêche de confondre souffrir un tort et être autorisé à tout faire pour y échapper. Socrate oriente ainsi le débat vers la préservation de l'âme, entendue comme intégrité morale. Le dialogue ne réduit pas la justice à un résultat favorable. Il demande si un acte peut être assumé comme juste indépendamment de son efficacité, de son avantage ou de la compassion qu'il suscite. Cette rigueur donne au refus de fuir sa force philosophique. Quatrièmement, les lois personnifiées et la logique d'un accord civique. Pour examiner la fuite, Socrate imagine les lois de la cité prenant la parole. Elle rappelle que la communauté politique a rendu possible sa naissance, son éducation et le cadre de sa vie civique. Cette personnification ne signifie pas que toute loi existante serait infaillible ou sacrée. Elle permet plutôt de formuler une question de réciprocité peut en bénéficier durablement des institutions tout en les détruisant dès qu'une décision devient défavorable. Socrate soutient que le citoyen doit chercher à persuader la cité lorsqu'il estime une décision erronée ou accepter les conséquences prévues par son ordre légal. Cette argumentation est souvent lue comme une esquisse de contrat social, car elle associe résidence, participation et obligation politique. Elle comporte cependant une difficulté que le texte rend visible, quelle place demeure pour la résistance lorsque les lois ou leurs applications deviennent profondément injustes. Le dialogue ne fournit pas une théorie complète de la désobéissance civile. Sa position reste liée au cas de Socrate et à son refus personnel de commettre une injustice. Son intérêt tient précisément à cette tension. Il oblige à distinguer respect de la légalité, critique des institutions et fidélité à la conscience, sans supposer que ces exigences coïncident toujours. En dernier lieu, la mort comme épreuve de cohérence, plutôt que comme objet de savoir, la mort structure les deux dialogues, mais Socrate refuse de la traiter comme le mal suprême. Dans Apologie de Socrate, il affirme que craindre la mort suppose de savoir ce que personne ne connaît avec certitude, elle pourrait être une absence de sensation ou un passage vers un autre ordre des existences. Ce refus de feindre un savoir sur la mort prolonge directement sa critique de la fausse sagesse. La certitude pertinente porte ailleurs commettre une injustice est mauvais, tandis que mourir en restant juste ne l'est pas nécessairement. Dans Criton, cette position cesse d'être seulement verbale. Socrate accepte les conséquences de sa condamnation au lieu de sauver son corps par une action qu'il juge contraire à ses principes. Platon ne demande pas au lecteur de rechercher la mort ni de minimiser la douleur de la perte. Il montre comment la perspective de mourir révèle la hiérarchie réelle des valeurs. Lorsqu'un individu ne peut conserver à la fois la sécurité et son exigence morale, quel bien considère-t-il comme non négociable? Cette mise à l'épreuve donne au dialogue leur unité. Le procès, la prison et la sentence ne servent pas seulement de décor historique, ils rendent visible une pensée qui se mesure à une décision irréversible. En conclusion, Apologie de Socrate-Criton convient aux lecteurs qui découvrent la philosophie antique, aux étudiants qui abordent la pensée politique ou morale, ainsi qu'à toute personne intéressée par les conflits entre convictions personnelles, décisions publiques et respect des règles communes. Sa lecture demande une attention active, les dialogues progressent par questions, distinctions et objections, plutôt que par exposition systématique. Cet effort procure un bénéfice intellectuel concret. Il entraîne à repérer les arguments fondés sur la peur, la réputation ou l'intérêt, puis à les comparer à des principes plus cohérents. Le livre aide aussi à éviter deux simplifications opposées, croire que la loi suffit toujours à définir la justice, ou croire que toute conviction individuelle autorise à s'affranchir des lois. Sa singularité parmi les textes de philosophie morale tient à la concentration dramatique de son dispositif. Les idées ne sont pas séparées de leurs conséquences, elles sont éprouvées lors d'un procès, dans une cellule et devant une mort prochaine. Comparé à un traité abstrait sur la justice, ce volume montre une méthode de pensée en action et fait de Socrate une figure dont la cohérence demeure discutable, mais impossible à réduire à un slogan. La juxtaposition de la défense publique et du dialogue avec Criton éclaire surtout le passage entre paroles philosophiques et conduite effective. Elle rend cette courte œuvre essentielle pour comprendre pourquoi la philosophie socratique associe examen de soi, dialogue rationnel et responsabilité morale. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.